Jules Janin, Stratford-sur-l'Avon, c'est-à-dire Stratford-upon-Avon. Quand vous avez parcouru la grande route et que vous avez jeté un regard de mépris sur les maisons de campagne des boutiquiers de Londres, deux pièces et deux jardins ensevelis sous la poussière, vous tournez à gauche et, laissant de côté ces grands hallebas de carrosses à deux étages où 50 martyrs de vos aïeux pourraient tenir, vous arrivez à une petite rivière cachée dans les herbes, dont les eaux vertes et profondes reflètent de grands bœufs, et le pâtre mollement assis sous un saule comme le berger de Virgile. Avec cette différence, il siffle un air d'ouverture de Covent Garden, ou dévore un épais beefsteak en contemplant amoureusement ses bœufs. Ce doux petit village, au bord de l'eau, ce sentier de vieux êtres, et ce long parc tout rempli de chênes séculaires, levez votre chapeau et saluez. C'est Stratford. Cette petite rivière, c'est l'Avon. Lève-toi, village, coule rivière, flot léger, maison blanche, ce grand parc, nous le saluons de l'âme et du cœur, heureuse patrie du grand Shakespeare. Demandez aux garçons bouchers du village, ils relèvent fièrement la tête, ils disent fièrement « Will, notre compagnon, le bon Will, voici la chaumière, milord. » Temple et chaumière, commencement de tant de pitié et de terreur. Plus d'un seigneur eût acheté la maison de Shakespeare pour la placer dans son parc, vis-à-vis le tombeau de sa chienne favorite, mais le village n'a pas voulu la vendre. On aurait eu meilleur marché du Parthénon et des temples de la Grèce. Pour un franc anglais, Sophocle, Eschyle, Euripide ne viennent qu'après Shakespeare. S'il vous plaît, frappez avec respect, et une bonne femme vous ouvrira. Vous verrez une humble porte, dont les battants ont été changés bien souvent, un seuil de pierre. Et ici, le sol s'est affaissé sous les pieds des fanatiques du roi Lear et d'Othello, comme autrefois le pied de Jupiter olympien sous les voûtes de Saint-Pierre de Rome. Adoration, adoration. La pauvre cabane. Avez-vous entendu ces contes français où des ogres dévorent des petits enfants et redressent leur double narine en disant je sens la serre fraîche. Vous prendriez la cabane où naquit William pour l'antre de l'ogre. Les murs sont encore assez rougis pour qu'on s'assure qu'ils ont été teints de sang. C'est un noir si foncé. Au sommet des murs surgissent de vieux crocs de fer qui semblent attendre des quartiers de victimes. Voilà bien le lieu où le jeune homme, une hache à la main, prenait l'attitude et la voix des sacrificateurs du temps d'Homère. À 18 ans, il était superbe et semblable à ces hommes qui sont faits pour marcher devant un roi. Il tenait le couteau à la façon d'un grand prêtre et la baguette avec le geste de la fée. Il a mis le ciel dans l'enfer. Il attachait les grillons à des chars. Il accoupla Falstaff au prince Henri. Il a hurlé où l'on prie, prié où l'on hurle. Et il a fait entrer chez Antoine chez des constables et la belle égyptienne chez des religieuses. Joyeux et terrible, homme et dieu, toujours homme même quand il est dieu, et cependant plutôt un dieu qu'un homme. Or ça, montrez-moi la chambre à coucher, ma bonne femme, que je vois en détail toute la maison de William. Mon Dieu, milord, l'escalier tombe en ruine. C'est à peine si le pied d'une sauterelle oserait le franchir. Voyez, milord, ces longues heures, toiles d'araignée, cette poussière qui s'envole, ce plafond qui se penche et ses brèches inégales. Il y a ruine ici, Milord. C'est plus noir que la cabane de l'apothicaire dans Roméo et Juliette. Il n'est pas douteux, cependant, que le grand homme ait dormi dans cette pièce. On y voyait encore, il y a près de 10 ans, un grand W entrelacé dans un cœur avec un B. Toutes les mélodies inscrivaient ce chiffre sur leur album. Les murs sont chargés de vers en toutes les langues. C'est une honte d'avoir sali ces murailles. On n'y monte plus. Il faudrait être aussi hardi que Richard pour grimper cet escalier vermoulu. Et la pauvre vieille poussait un profond soupir de regret. Justement, le jour était à son déclin. Un vent d'automne gémissait dans les arbres jaunissants. La rivière s'annonçait au loin par un solennel murmure. Je m'assis sur le bloc de chêne qui avait servi à Shakespeare. Je prêtai l'oreille au bruit qui se faisait au dehors. J'écoutais le calme qui se faisait dans l'étage supérieur. Et soudain, ou par vision sans doute, je vis à travers les crevasses du plafond. Non, ce n'était pas une erreur. Je vis une pâle et fugitive clarté. J'entendis des pas d'homme. Voilà le sabbat qui commence. Alors la vieille gardienne d'océan prit la fuite et me laissa seul. Ce fut d'abord comme une vapeur fétidique, un nuage, et bientôt une étrange lueur, l'incertaine clarté des siècles d'autrefois. Bientôt j'entrevis le vieux Londres du temps de la reine Élisabeth. Il était 4 heures, les bourgeois se rendaient au combat d'ours. C'était le riche marchand, long chapeau, en habit de gras noir, la panse ronde et la face rougeaude. Il se pressait, il se battait, il criait « les ours, les taureaux !» Au même instant arrivait de sa province un jeune homme, un amoureux. Il était pauvre et persécuté. Le jeune homme tenait les chevaux à la porte du théâtre en disant « Voilà qui va bien !» Puis il faisait un sonnet d'amour. Il lisait les vers d'Ovide et les récits de Plutarque. On lui parlait des deux roses si sanglantes toutes deux, la rose et la blanche. Alors il s'animait comme une sibylle. « En avant la joyeuse Angleterre, en avant la vieille Angleterre !» En avant les joies du cabaret, les inquiétudes du combat, rien que des noms de notre histoire. Que de pleurs, de cris, de fureurs. Salut aux morts, applaudissez le mort, applaudissez le Vénitien, matelot. Le mort est un navigateur, comme vous il a été le maître de la mer. À ces grands spectacles, les ours disparaissent, les bulldogs sont vaincus, les bourgeois s'en vont, la reine Élisabeth arrive au théâtre en toute splendeur. Vive la reine! Oh là, voici le Ford, Lord Leicester, la noble jarretière est à sa jambe. Protégez le poète, milord, dites un mot pour lui à la vestale assise au trône d'Occident. Milord! Il existe une pétition contre Henri III et les joyeuses commères. Les bouchers de Londres réclament. Ils disent qu'on leur fait tort. Et la reine aux yeux bleus tranquillise le grand poète. Et les annales des 3 royaumes se déroulent aux yeux du peuple anglais. La féerie est encore de l'histoire. Posez-vous sur le cœur de nos vierges. Esprit du gentil Ariel, que le malin Puck assiste à nos rêves et nous réveille au milieu d'un songe d'été. Shakespeare a tout fait, il a fait mourir Brutus, il a fait triompher la mère de Coriolan, il a crevé les yeux du jeune roi Arthur. Ne crève pas mes pauvres yeux, Hubert. Constance, Desdémone, Juliette, Octavie, oh, les touchantes douleurs. Et je voyais tous ces héros, toutes ces femmes. J'entendais tout ce fracas poétique. C'était une mêlée immense, un bruit de gloire et de guerre, et des soupirs d'amour, des cris de rage, des regrets paternels. Qui donc a mieux écrit l'histoire que Shakespeare, historien? Il marche, on le suit. Il parle, on l'écoute. Obéissez au maître des temps passés, ombres muettes, fantômes, restez dans vos habits de fête, restez dans vos nobles attitudes. Seulement, à côté d'Élisabeth, à sa droite, je voudrais voir ce parpaillot de Henri IV, le Béarnais, allié d'Élisabeth, regardant, spectateur intéressé, l'histoire animée de nos guerres civiles. Oh, il y devait passer sa vie, et puis mourir au milieu de ses triomphes, par la raison qu'un fer sacré ne pardonne pas. Je suis anglais, j'ai vu bien des choses. J'ai vu la bataille au Waterloo et la victoire tomber dans nos rangs, comme si son aile eût été fatiguée et que lui refusait de la porter plus loin. Mais jamais je n'ai imaginé quelque chose de plus beau que cette vision littéraire. Au milieu de cette cabane où naquit l'auteur de La Tempête et de Macbeth. Notez bien que je n'étais pas endormi, que mes yeux étaient ouverts, et que dans une tranquille contemplation, j'entendais le bruit du vent et les murmures de l'Avon. Un léger nuage, en se détachant du ciel, vint m'enlever à cette féerie. La lune, qui se faisait jour à travers ses toits en débris, cessa d'éclairer les mansardes. Plus rien de la décoration qui, tout à l'heure, ajoutait sa vraisemblance à tous ces drames. Et je ne vis plus que la porte qui venait de s'ouvrir. Sur le seuil se tenaient la vieille femme et son voisin, un esprit fort de l'ancien Covenant qui, les jours de vision, lui servait d'aide et d'appui. « Depuis l'automne passé, me dit la vieille, j'ai remarqué cette lumière subite et pourtant tous les volets sont fermés. Quand la chambre d'en haut s'éclaire, on entend des bruits de voix, des pas d'hommes, le dernier mugissement des taureaux qu'on abat, les palpitations des jeunes chevreaux qu'on égorge. C'est le vieux boucher qui revient. Il trouve son fils à rêver, le bat comme plâtre. Moi qui vous parle, j'ai vu passer là-haut le chevreuil abattu par le John William dans le grand parc tout rempli de vieux chênes. Ce chevreuil lui fit perdre l'éclat de son père et lui valut tant de misère. Ah, oh, tout cela est bien triste en vérité. » La vieille femme ayant parlé et déclamé tout à son aise, je quittai à regret cette chaumière. Il y avait à la porte un arbre déjà vieux, tout jauni par les automnes, jaune et rouge comme des feuilles de laurier frappées de la foudre. « C'est un rejeton de l'arbre de Shakespeare, me dit la vieille. On dit que l'ancien mûrier était gros comme Sir John Salsaf. On en voit des morceaux dans tous les châteaux du Yorkshire et du Northumberland. Et voici mon voisin, oh, qui en a encore tout plein sa maison. » À votre service, milord, me dit le voisin. En même temps, il tira de sa poche un assez honnête fragment de buis, ciselé avec art, et qui avait à peu près la forme d'un galoubet champêtre, vieil emblème de la poésie classique, naïvement appliqué à la poésie de Shakespeare, au Jupiter de l'Olympe moderne. Que personne jusqu'à présent n'a pu atteindre en Angleterre, excepté Byron et peut-être à 1000 pas, l'enfantin Sir Walter Scott.